wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Comeau, Julien Gester et Jean-Christophe Ferrari. C'est une première pour Jean-Christophe Ferrari. Bienvenue à lui. À notre affiche, Joker de Todd Phillips, Martin Eden de Pietro Marcello, Chambre 212 de Christophe Honoré. Et ce soir, ce sera mon coup de cœur pour l'angle mort de Patrick Mario Bernard et Pierre Trévidic. Nous ouvrons cette dispute avec Joker. On s'est dit qu'il fallait effectivement porter un peu de lumière sur ce film sorti un peu dans l'ombre. Peu d'entrées en salle pour l'instant, ce film de Todd Phillips dont on ne parle pas et la dispute est là pour rétablir un peu l'équilibre. Il y a eu un Lion d'or à la Mostra de Venise. Le film est en vrai un immense succès partout où il est sorti. Moi, je l'ai vu comme beaucoup de gens dans une salle qui affichait complet. C'est le cas de beaucoup de cinémas en France. Cet engouement est-il justifié? Nous allons en parler. Pour rappel, le Joker du titre, c'est le méchant de Batman dont on va suivre le chemin vers le mal. Elle est interprétée par Joaquin Phoenix et la route semble aussi toute tracée vers l'Oscar. Trop tracée, peut-être.
Can you please stop bothering my kid?
Sorry.
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
And finally, in a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
You can say that again, pal.
It's so awful, isn't it?
For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice.
You think this is funny? Is this a joke to you?
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Send in the clowns.
Joker. Premier tour de table. Vous n'avez pas le droit, évidemment, d'utiliser un Joker. Pour vous défausser, Julien Gester.
C'est compliqué.
Lucille Comeau.
Moi, le projet même de figuration de l'avènement psychopathologique d'un personnage comme le Joker me paraissait assez douteux et malheureusement, le film m'a confirmé dans mes doutes.
Vous trouvez donc assez douteux. Jean-Christophe Ferrari.
Je dirais maniéré et politiquement confus.
Aïe, 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 il y a des gens qui n'aiment pas dans ce studio ce film Joker qui fait un carton partout. Ça dit, il fait un carton au départ. Après, on va voir si le film dure longtemps dans son succès, on va dire ça comme ça. Alors, Julien Gester, explicitez un peu ces premiers mots.
Pour vous répondre déjà là-dessus, j'ai l'impression quand même que le film plaît. Il y a des indicateurs de ça. À la fois, je parle bien au-delà de la presse qui a été, je crois, majoritairement plutôt bonne. Mm-hmm. Moi, je l'ai vu comme vous dans une salle pleine qui a applaudissé à tout rompre à la fin. J'ai eu devant d'autres.
Moi, ça peut pas applaudir.
Réactions de ce genre. Et je crois que sur les sites de de critiques spectateurs, de notations, etc. Il fait des scores assez...
Ah oui, d'accord. Donc le bouche à oreille risque de fonctionner.
Bon, en tout cas, voilà, je pense que globalement, le film plaît. D'accord. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le film me passionne. J'aurais du mal à vous dire qu'il me plaît totalement, que j'adore ça. Je pense que ça tient à la nature même du film, à sa facture, à l'endroit où il se situe. Jean-Christophe Ferrari parlait de confusion à l'instant. Je pense qu'en fonction de... la réaction affective qu'on a au film, qui est par ailleurs, je pense, difficile à démêler, on appelle ça confusion ou ambiguïté, mais je pense que le lieu du film, précisément, et c'est à la fois sa chair et son sujet, c'est une ambiguïté. Et la bande-annonce qu'on vient d'entendre mime le grand spectacle hollywoodien contemporain d'un certain cinéma de super-héros, plutôt Marvel. Le film lui-même mime beaucoup de choses, à la fois des codes également actuels, en vogue, qui ont à voir avec le studio qui l'a produit, Warner, qui est la maison des grandes messes d'un Christopher Nolan, d'un certain caractère un peu sentencieux qu'on a vu décliner depuis le succès de ses films, et notamment de ses Batman. Mais aussi toutes sortes de formes, d'idéologies aussi, qu'il met en concurrence et qu'il renverse. L'époque dans laquelle il se situe elle-même, confuse, ambiguë, puisque c'est une sorte d'amalgame la fin des années 70, début 80, du New York près de Giuliani, Gotham ayant City ayant toujours été évidemment une sorte de double de ce New York-là, mais aussi un peu des années 20-30, de la Grande Dépression et de l'ère pré-fasciste. Et le
mais
film...
aussi d'Occupant Wall Street et d'aujourd'hui des Indiana
et voilà Rose, le film met tout cela à la jaunes. Fois en miroir, en concurrence et en articulation pour tendre un miroir lui-même déformé, étrange, ambigu et éventuellement confus à une époque qui est évidemment la nôtre, où cette figure de Joker, on a pu lire toutes sortes de projections évidemment de ça, et à la fois en fonction des différents stades de son itinéraire dans le film et des reflets qui nous sont tendus, on peut la taxer d'extrême gauche, d'extrême droite, révolutionnaire, anarchiste, nihiliste. Et en même temps, ce qui me semble faire la réussite relative du film, c'est que ce grand magma qu'on peut trouver assez roublard et en même temps assez juste sur une certaine dimension de l'époque, il se trouve quand même très profondément incarné dans une figure, à la fois dans un acteur que je trouve assez époustouflant, pour le coup, d'invention et par l'endroit où il se situe, sur lequel on reviendra éventuellement, mais aussi, précisément, quand je dis dans une figure, dans un personnage, dans un individu, dans un itinéraire pathologique et affectif individuel.
Lucille Comeau, premier regard sur Joker, développé cette fois-ci.
Oui, enfin, vraiment, je pense que la question du film, et moi, ce qui m'a posé problème, se situe précisément dans l'endroit de l'ambiguïté dont parlait Julien, c'est-à-dire que je pense que le film ne réussit pas à tenir une ambiguïté, mais par contre, tombe dans des contradictions, vraiment. Et c'est très différent, l'ambiguïté et la contradiction. Si on prend, par exemple, le point de vue politique, il y a quelque chose d'intéressant qui se dessine au départ, disons pendant les deux tiers du film, qui est Gotham, la situation terrible dans laquelle Gotham se trouve socialement désespéré avec ses émeutes anti-riches qui naissent, et un hors-champ. On a très peu d'extérieur, tout se passe quasiment autour du Joker et beaucoup, beaucoup à l'intérieur de son chez-soi, à lui. Là, il vit avec sa mère dans un appartement miteux. Et l'extérieur reste finalement assez peu présent. Et lui se trouve rejoindre presque malgré lui la pathologie d'une société entière, mais sous la forme d'un malentendu. C'est-à-dire qu'il ne peut incarner, parce qu'il ne le veut pas, et que par ailleurs la société non plus ne le veut pas, incarner ce malaise de la société. Et là, il y a un hiatus entre les deux qui est intéressant, qui pourrait être politiquement assez intéressant, et assez noir d'ailleurs, assez désespéré. Or, la fin du film, on sent la révéler, détruit absolument cette ambiguïté-là, et... À mon avis, assez symptomatiquement, le film s'auto-sabote en permanence, de la même manière qu'il use à la fois des codes du blockbuster et du film d'auteur indé très très d'aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a un vernis très artificiel, notamment l'utilisation des couleurs jaunes et vertes, les néons qui clignotent, on n'en peut plus. En fait, ce film ne cesse d'annuler ce qu'il entend produire.
Ça peut être intéressant comme geste.
Alors, ça peut être intéressant, sauf quand... sauf quand ça s'annule vraiment. Par exemple, sur le personnage qui est en effet le centre, le cœur du film, il ne produit ni vraiment de terreur parce qu'on explique en permanence et donc on désamorce sa cruauté, ni vraiment de pitié parce qu'il reste très artificiel et c'est lié à mon avis à des questions de mise en scène et de code cinématographique plaqué. Donc moi, ça, par exemple, ça n'a rien produit sur moi. Et je suis assez étonnée de lire beaucoup de commentaires de type politique justement sur le film, de se demander est-ce que c'est un film de droite, est-ce que c'est un film de gauche. Enfin, l'allusion au gilet jaune que vous faisiez, pour moi, elle ne se pose même pas. Je pense que c'est un film qui ne tient aucun discours, à part éventuellement un discours de type psychologique.
Je
ne
dis pas qu'il utilise un discours, je dis qu'il utilise de l'actualité, ce qui est tout à fait autre chose.
Je n'ai pas trouvé.
Il utilise des images.
Pour moi, non. Je ne vois aucune concordance entre les émeutes dont il est question et par exemple Occupy Wall Street, encore moins avec les gilets jaunes. Je ne vois pas du tout en quoi ça nous donne à penser ces mouvements-là. Je ne vois qu'un.
Encore une fois,
je n'ai
pas dit que ça donnait à penser.
Oui.
C'est plaqué.
Je
vous rejoins en fait.
Éventuellement, je ne suis même pas sûre que ça le soit. En tout cas. L'intérêt qui nous est donné, c'est l'avènement d'un psychopathe. Je trouve que c'est particulièrement maladroit. C'est-à-dire que les ressorts psychologiques invoqués sur une sorte de crescendo, c'est quelqu'un qui est rejeté par son père, par les femmes autour de lui, qui perd son travail. C'est extrêmement lourd et très attendu. Moi, j'attendais les étapes les unes après les autres. J'attendais qu'une chose, c'était l'explosion finale. Elle n'a pas vraiment lieu, il faut le dire quand même.
Plus ou moins. Jean-Christophe Ferrari va développer son point de vue sur cette confusion.
Oui, alors déjà, je trouve que c'est un film très maniéré, affecté dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est un film qui dialogue, évidemment, avec Taxi Driver de Scorsese, ce film qui était un peu une enquête en, justement, le New York pré-Giuliani. Sauf que de ce portrait-là, Scorsese faisait un portrait fiévreux, épileptique, convulsif, angoissé. Et d'ailleurs, je trouve que Joker, qui est un film qui devrait susciter de l'angoisse chez le spectateur, en suscite très peu. C'est un film finalement très confortable, je trouve. Et à ça, j'attribue le fait que, justement, c'est ce décor, ce n'est qu'un décor. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il a pris le décor Taxi Driver, il a mis des rats, il a mis des poubelles, il a mis des fumées, et il s'est dit que ça allait fonctionner. Et pour moi, à ce titre, c'est plus le film d'un directeur artistique. Et je suis sûr qu'il y a une très bonne équipe de directeurs artistiques derrière, qu'un vrai film de cinéaste. Quand politiquement incertain ou confus, j'insiste sur le mot confus, parce que pour moi, ce n'est pas de l'ambiguïté, parce que justement, l'ambiguïté, comme vous l'avez rappelé à juste titre, l'ambiguïté peut être féconde cinématographiquement, artistiquement. Là, j'ai tout simplement l'impression d'un cinéaste qui ne sait pas ce qu'il veut raconter politiquement. Il y a ce parallèle qui est créé entre les mouvements populaires et cette figure qui devient folle. Comment faut-il la comprendre ? Est-ce une manière de dire que il y a quelque chose dans la révolte qui est de l'ordre de la folie ? Est-ce que c'est une manière de dire que il incarne malgré lui l'humiliation populaire ? Là, j'ai l'impression qu'il y a une incertitude fondamentale du propos. Alors, j'ai été très étonné par les réactions, effectivement, les réappropriations politiques qui dirait, d'ailleurs de manière très simpliste, que ce film serait un film qui montrerait que l'humiliation sociale mène à la folie. Je trouve que d'ailleurs que c'est un discours quand même très très mince politiquement, et que je suis même pas très peu dialectique, et je suis même pas sûr que le cinéaste en l'occurrence ait voulu dire ça. C'est pour ça que je parle d'incertain, de confus et pas d'ambigu.
Oui, parce que Todd Phillips qui réalise le film co-signe le scénario avec Scott Silver. Vous avez évoqué Taxi Driver, dont certains plans sont plagiés, mais il y a aussi King of Comedy, qui est quand même la valse des pantins, l'autre grande influence. Vous avez rappelé Taxi Driver, mais dans La valse des pantins, donc le titre français, merci Julien, on voyait Robert De Niro fasciné par un animateur humoriste de talk show qui était joué là par Jerry Lewis. Donc là, on a vraiment des scènes qui sont des décalques, pour pas dire plagiat, mais absolu. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que c'est cette fois Robert De Niro qui joue l'animateur humoriste. Moi, j'avoue que je ne comprends pas bien c'est cet emprunt, enfin c'est plus qu'un emprunt, cette façon d'essayer de récupérer quelque chose de ces films existants qui ont tous deux d'autres qualités que ce Joker. Et quand je parlais des Gilets jaunes ou d'Occupy Wall Street, qui est la référence peut-être quand même plus évidente, moi c'est surtout pour dire que c'était une image qui au mieux, et alors peut-être ce que disait Jean-Christophe Ferrari, au mieux est confuse au sens idiote, ou au pire cynique, parce que quand on est à la Warner et qu'on fait un film qui dit tuer les riches, enfin, je préfère à la limite pour Todd Phillips qu'il soit bête plutôt qu'il soit cynique, parce que je trouve ça quand même assez rude. Et puis après il y a des trucs extrêmement lourdingue au niveau scénaristique, sans divulgâcher. Quand on explique bien au spectateur par une séquence vraiment très 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 lourde qu'une partie de ce qu'il a vu relève du fantasme du personnage d'Arthur Fleck. Bon, là on est vraiment infantilisé en tant que spectateur. S'il faut bien nous expliquer, attention, il est fou. Alors il a des visions, mais on va vous remontrer que il a. En fait, c'était pas ce que vous croyez. C'est quand même assez grave. Lucille, comment?
À ce titre-là, c'est vraiment, ça relève de la contradiction. C'est un problème de point de vue assez général. Le film fémine dans un premier temps et à plusieurs reprises de se placer au niveau de la folie du Joker, ce qui est intéressant, ce qui pourrait apporter cinématographiquement des choses. Et on a ces moments, en effet, de flashback où d'un seul coup, on a l'impression que la narration d'un seul coup est omnisciente. Et ça rentre complètement en contradiction avec le point de vue premier. Tout ça me laisse vraiment perplexe.
Ça existe dans un film de changer de point de vue,
oui,
en cours de film.
Oui. Mais là, ça se contredit encore une fois.
Depuis le faux alibi.
Bah non, je vois pas en quoi dire une chose et puis ensuite autre chose, énoncer un point de vue et ensuite un autre. En quoi ce serait une contradiction et pas simplement une évolution. Enfin, un film ne tient pas forcément dans une note d'intention en une phrase.
Quand il s'agit de personnages, je suis d'accord, mais là il y a à la fois le point de vue d'un personnage et puis un point de vue qui se place largement au-dessus. Mais
vous avez vu des centaines de films, je pense, dans votre vie où on a parfois un point de vue subjectif, puis un point de vue qui est.
Je trouve que là ça fonctionne pas. Je trouve que ça crée non seulement des malentendus, mais des problèmes de vraisemblance narrative. Mais vraiment.
Alors, je suis pas sûr de voir ce dont vous parlez en termes de problème de vraisemblance, puisque de toute façon, la vraisemblance, ou le degré, le taux, enfin, le principe de réalité de toutes les scènes, en fait, il y a quand même un soupçon qui est jeté sur tout cela.
Eh bah, pas toutes, justement, ouais. C'est bien ça le
problème. Mais ce qui m'interpelle dans ce que vous dites et qui me fait presque me retrouver à défendre un film dont, encore une fois, je suis pas sûr qu'il me plaise énormément parce que je suis pas, très, très forcément séduit par son mode et sa recherche de puissance en permanence, la violence avec laquelle tout ça s'exerce. Même s'il me semble que Joaquin Phoenix fait beaucoup pour faire passer la pilule, c'est que j'ai l'impression, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que le film devrait dire quelque chose, qu'il devrait tenir un discours, et je pense que précisément l'intérêt de ce film-là et le geste de Todd Phillips, c'est précisément de ne pas dire, c'est d'aligner une somme de discours, d'images et de lectures qui s'annulent entre elles et qui, à partir de ça, il produit une image qui a à voir et qui n'est pas sans rapport avec un certain état politique, idéologique, sociale, qui est celui pour le coup du contemporain. Que je pense pas que le film ait le sentiment que quiconque, que ce soit dans les bureaux de la Warner ou derrière la caméra, se dise on va dire que le film dit qu'il faut tuer les riches, ni son inverse. C'est précisément que le fait que les choses soient énoncées les unes après les autres dans le film, et c'est là-dessus que je ne vois pas une contradiction mais un rapport dialectique, qui a en effet quelque chose où, dans lequel je vois une forme de cynisme, et c'est ce qui me sauve dans mon rapport à ce film de cynisme, encore une fois, c'est le fait qu'on soit au ras d'une figure individuelle, incarnée, dont j'ai le sentiment qu'elle s'invente malgré tout au fur et à mesure du film, et de la même façon que je ne pense pas que le rapport, que les scènes qui ont à voir, que vous qualifiez d'emprunt ou de plagiat des films de Scorsese, et notamment de la valse des pantins, relève de ça, mais d'un rapport pour le coup vraiment dialectique, intersexuel, et de la relecture. C'est pas, s'il avait voulu se cacher ou maquiller un tout petit peu ça, il aurait évidemment pas pris la figure de De Niro qui par un déplacement aussi réécrit un peu ces scènes là
non mais j'entends bien, mais alors j'ai pas du tout dit qu'il fallait que le film dise quelque chose, hein, je me suis peut-être mal exprimé, mais j'entends tout ce que vous dites, Julien Gester, sauf que il me semble que Todd Phillips alors n'a pas les moyens de son ambition, si c'est pour être très très simple. Il peut avoir voulu faire ça, pardon, je vais y arriver, mais pour moi il est quand même très loin du compte. Mais effectivement, j'ai lu un très bon papier de Luc Chessel dans Libération, c'est souvent le cas, sur Joker, qui qui va du côté de ce que vous dites aussi, Julien Gester, sur l'impossibilité de jouir de ce que le film nous propose, qui en même temps annule sa propre jouissance. Enfin bon, c'est évidemment très riche intellectuellement. En tant que spectateur, c'est pas tout à fait parvenu jusqu'à moi. Je pense que l'article de Luc Chessel est bien plus intelligent que le film de Todd Phillips. Jean-Christophe Ferrari.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Lucille Comeau par rapport à l'alternance des points de vue. C'est pas le fait qu'il y ait une alternance des points de vue qui soit problématique. Non. C'est que, à mon avis, dans le film, elle est une commodité. Elle est une sorte de cache-misère. Par exemple, je pense à la scène où il doit faire sa scène de stand-up. Et là, ça aurait pu être une grande scène. Le type qui croit du talent, qui croit qu'il a du télac, qui croit qu'il a de l'humour, et la vraie réaction de la salle. Or, justement, l'alternance des points de vue escamote cette scène, parce que je crois que là où le film avait un potentiel énorme, et je pense que c'est là où il a intéressé Joaquin Phoenix, c'est que finalement, ça peut être une méditation sur ce que c'est qu'un comédien, c'est-à-dire quelqu'un qui, contre toute attente, réussit à avoir un public. Et j'ajouterais juste que quand même, il me semble que le Lion d'Or attribué à ce film, c'est quand même un très mauvais signe. Ça valide un espèce de film blockbuster autorisant dont je vois déjà la déferlante arriver.
Joker, c'est le film de Todd Phillips, est en salle depuis mercredi. Nous allons parler dans cette dispute de Martin Eden, de Chambre 212 et de L'Angle Mort.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Martin Eden de Pietro Marcello, il en fallait du cran, peut-être de l'inconscience aussi, hein, pour s'attaquer à un pareil monument de la littérature. Mais Pietro Marcello y a cru. On va voir s'il a bien fait. Ce livre de Jack London a été publié aux États-Unis en 1909. On dit souvent que c'est le plus autobiographique de ses livres. Pietro Marcello a transposé son action en Italie pour suivre le parcours du jeune marin épris de littérature et d'absolu.
Chi mi ha fatto venire qui?
Già scrivere.
Chi è scrivere?
Voglio diventare uno scrittore. Ho deciso che voglio essere come voi. Parlare come voi. Pensare come voi.
Ho appena incontrato un cucciolo d'aquila che vuol salire in un nido di civette.
Hanno dimostrato di non essere più schiavi dei capitalisti. Bisogna continuare lo sciopero.
Per guadagnarsi la vita in un altro modo, imbarcati, vai fra la gente, gira il mondo, Marte.
Fare lo scrittore è ridicolo per uno che ha imparato da poco a leggere. E tua figlia è stupida che gli corre dietro.
Noi potremmo essere felici insieme. Noi non ce lo saremo, Martin.
Amo Elena, tu vivi in una favola, Martin. La principessa e il marinaio.
Ora vi chiedo di darmi 2 anni di tempo per misurare il mio talento. E il giorno in cui ci riuscirò, cara Elena, ti giuro che tu sarai mia e che lo sarai per sempre.
E gli individui? Che ruolo hanno gli individui nella società per cui lottare?
Lo scrittore Martin Eden non esiste. Quello che avete davanti è un malandrino, un marinaio. Io non sono un mito.
In questa città ci saranno 5 o 6 individualisti e tra questi c'è Martin Eden.
Martin Eden de Pietro Marcello, sorti ce mercredi, un premier tour de table pour recueillir les premiers sentiments sur le film. Lucille Comeau.
Oui, un très grand film pour moi. Certes, assez grandiloquent, mais qui est un très bon exemple de bonne adaptation d'un roman.
Jean-Christophe Ferrari.
Inspiré et sanguin.
Julien Gester.
Le Joker italien.
Bon, on va vous garder pour tout à l'heure et on va commencer avec Lucille Comeau.
Oui, c'est un film qui m'a vraiment bouleversée, vraiment, enfin physiquement tout. Qui est,
ça
je pense,
fait 15
très,
ans que vous en parlez au bureau, donc non, je
plus que
à
ça.
Le savoir. Et en plus, je l'ai pas vu encore moi ce film. Bon.
Qui produit vraiment une envie de voir du cinéma. C'est assez rare quand même, je trouve, ces films-là. Donc, il s'agit de le dire de temps en temps. Ça passe par une grandiloquence formelle. Il fait appel à des tas d'effets. Et j'ai mis, je pense, une bonne vingtaine de minutes à vraiment me dire que c'était possible de supporter ce type de grandiloquence formelle. Donc ça n'a pas été évident pour moi. Mais c'est une manière d'entrer dans le film qui est assez logique eu égard à la narration et au roman qu'est Martin Eden. Et il y a un moment où Martin Eden rentre pour la première fois dans cette grande maison bourgeoise où il va rencontrer la jeune fille qui va être son initiatrice, entre guillemets. Et il voit un peu flou. Il y a un petit moment où il accommode, il a du mal à voir la bibliothèque, les pages du livre qu'elle lui tend, parce que lui-même est dans un état de dépaysement absolu et il doit s'adapter à quelque chose de nouveau, une nouvelle trajectoire. Et je pense que pour le spectateur, c'est un peu de cet ordre-là. Et je pense qu'il fallait ça, en fait, cette grandiloquence-là, l'utilisation de l'archive, l'utilisation du 16 mm de temps en temps, la musique qui décale et qui met beaucoup à distance dans quelque chose d'assez brechtien, même le film, pour supporter l'adaptation de ce grand roman-là. Et je pense que le tour de force, c'est d'avoir adapté la narration dans l'Italie. Alors, des années 60, mais c'est pas évident. Enfin, c'est-à-dire que le lien à l'espace et au temps est extrêmement lâche. La fin, la séquence finale, laisse entendre qu'on peut être totalement dans un film presque de science-fiction. Il y a un rapport presque irréel à des tas de réalités. Ce qui fonctionne très bien aussi d'un point de vue politique, je pense, parce que Martin Eden aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que Martin Eden. En Italie, dans les années 60, ça permet de créer un personnage qui a une vraie position politique singulière. C'est-à-dire que c'est un personnage qui revendique un individualisme fort à tout craint. Il est taxé de socialiste à plusieurs reprises, mais lui, il n'est pas du tout socialiste. Il y a même une scène dans un dîner mondain où il renvoie tous les hôtes à leur hypocrisie libérale, justement, en montrant que lui est un vrai défenseur du libéralisme pur au sens philosophique du terme, et que eux ne l'utilisent que pragmatiquement à des fins financière. Et cette scène-là, dans une Italie un peu fantasmée, elle crée une vraie appropriation d'un discours politique par un personnage. Et ça, je trouve, d'un point de vue politique, que c'est assez fort.
Politique, à nouveau. Jean-Christophe Ferrari sur Martin Eden.
Oui, alors d'abord, j'avais un peu peur en voyant le film, parce que je dois vous confesser que Martin Eden est un de mes livres préférés. Alors, face à la...
On a fait la sortie pour votre première venue.
C'est formidable.
On a un pouvoir fou, vous savez.
Je vois ça. Et donc, bon, on a toujours un peu peur. Or, ma vision du livre a été enrichie par le film, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et je crois que ça tient au fait que le film se situe, à mon avis, dans un des lieux les plus intéressants de la production cinématographique actuelle, qui est un lieu qui fait des ponts, on va dire, entre la fiction et le documentaire. C'est-à-dire que c'est un film qui ressource la fiction dans le documentaire en utilisant toutes sortes d'archives, des archives absolument magnifiques d'ailleurs, qui viennent de toute l'histoire du XXe siècle italien. Et ça donne quelque chose, donc un croisement entre le documentaire et la fiction, ça donne quelque chose d'hybride, mais hybride au sens fécond du terme. Parce que bon, le mot hybride aujourd'hui est un peu employé à tort et à travers. Je dirais qu'il y a un hybride. L'hybride, c'est devenu quelque chose de chic. Or là, ça me semble être un hybride fiévreux, sanguin, emporté, porté par un vitalisme absolument exceptionnel. Et c'est lié beaucoup, je crois, à l'art du montage de Pietro Marcello, qui, justement, le montage entre la fiction et les archives, qui est jamais un montage illustratif, mais qui est une image qui fonctionne par écho, rime. C'est ce qu'on appelle techniquement un montage à distance, dont le cinéaste arménien Pelechian fut le grand découvreur. Et d'ailleurs, Marcello a réalisé un documentaire sur Pelechian. Et ça me semble donner au film un rythme, une musicalité lyrique qui emporte tout sur son passage. Et je dois vous le dire, j'ai pleuré à la fin.
Ah, et la grandiloquence qu'évoquait Lucille Como vous a pas gêné?
Justement, je la vois pas comme de la grandiloquence. Je la vois plutôt comme un geste un peu impétueux, mais pas comme de la grandiloquence.
Julien Gester faisait référence au Joker.
Non, mais on pourrait y voir. Enfin, c'est un hasard du sommaire de cette émission, parce que les deux films.
Il n'y a pas de hasard. On a choisi les dates.
C'est la même
sortie aussi.
Aussi.
Appelé la Warner.
Et vous avez commandé les films au cinéma.
Bien sûr.
Mais on pourrait voir deux versions au fond d'un projet, de projets assez comparables, l'une hollywoodienne à fort budget et réalisée par quelqu'un qui vient de l'univers de la farce. En plus, je trouve que c'est pas, enfin, je vais arrêter de parler de Joker, mais je trouve que c'est assez intéressant sur l'époque de se dire que les films émanant du cœur du système hollywoodien aujourd'hui, qui se confrontent le plus directement peut-être à ce qu'est la question du mal politiquement, ce sont des gens qui viennent de la comédie. C'est Todd Phillips qui a réalisé des
Very Bad Trip,
notamment, ou des films avec Will Ferrell ou des Starsky Hutch, et avant lui Adam McKay avec Vice et son film dont le titre m'échappe sur la crise des subprimes. Donc voilà, ce serait une version possible, et puis une autre version qui serait celle de Pietro Marcello, cinéaste autodidacte, virtuose, autoproduit aussi, qui fait ses films un peu, qui compose un peu ses films comme il peut, mais en créant un cadre de production où il se rend aussi libre que possible, ce qui peut aussi donner à ses films parfois des contours un peu dont on se dit que là, un accompagnement industriel aurait pu le conduire éventuellement peut-être à se normer et à y perdre quelque chose, mais à gagner peut-être des fois, peut-être en rigueur ou à certains endroits, ou à peut-être à ne moins embrasser une idée très personnelle et peut-être un peu ancienne du beau. C'est là-dessus que je recoupe un peu le jugement de Lucille Como sur la grandiloquence. C'est-à-dire que le film traverse tout le XXe siècle. Son temps est un temps sans contour. Ce n'est pas une époque incertaine, mais une multitude d'époques qui sont un peu justement intriquées, comme c'est un peu le cas dans Joker. Et son lieu, qui n'est pas Gotham, mais n'est pas Naples non plus, c'est filmé à Naples, dans une Naples dont il laisse filtrer, en effet, c'est la dimension documentaire des atours contemporains, tout en lui donnant, dans le même plan, des signes du film d'époque, mais quelle époque, etc. Et le film lui balaie tout le siècle, et a ce projet de ramasser tout le souffle à travers les contradictions, encore une fois justement, et les ambiguïtés de sa figure, de ramasser presque toute une histoire politique un peu désenchantée du 20e, avec un angle mort peut-être, ou en tout cas un point semi-aveugle, puisqu'il est qui est hors champ, ce qui est le fascisme qu'on sent monter, dont on entend le bruissement délicat du bruit des bottes en arrière-plan, et qui peut-être ce point aveugle, pour le coup, ce serait celui du Joker. Mais je trouve le film extrêmement beau, impressionnant, emporté, traversé par un romanesque que n'avaient pas forcément les précédents films de Marcello, qui étaient déjà très impressionnants. Et en même temps, sa limite peut-être, c'est son projet même, c'est sa dimension de film essai, le fait de tenter, d'essayer tout le temps et de faire rentrer cette histoire plus grande que lui, ce roman plus grand que lui, dans ses plans, dans cette durée aussi d'un film de 2 heures. Il aurait pu se lancer dans un cycle aussi en adaptant London. Et de peut-être d'être trop, pour le coup, à la hauteur de ce personnage, de son idée de la beauté à poursuivre en tant que cinéaste, de ce personnage qui est lui-même profondément ancré dans ce siècle qu'il dépeint et qui conduit au nôtre, qui est trop dans le monde pour rencontrer le succès dans la première phase de sa vie, et puis ensuite, lorsqu'il connaît le succès, perd tout contact avec le monde.
À vous écouter les uns et les autres, j'ai l'impression aussi que vous avez cité Pellechin, Jean-Christophe Ferrari, mais je pense aux frères Taviani, à cette ampleur des fresques qu'ils ont su faire quand ils ont fait des bons films. Il y en a eu des bons films des frères Taviani. Est-ce qu'il y a quelque chose de cela aussi? Moi qui n'ai pas encore vu le film, je vous pose la question.
Je verrais pas forcément quelque chose des Taviani, parce que justement je crois que le film, justement à cause de cette forme hybride que je décrivais, évite la fresque, évite le grandiose, mais propose une forme d'histoire du peuple italien, du peuple ouvrier italien sur le XXe siècle, qui est une forme qui relève pas de l'épopée. Et ça, je trouve ça très singulier et très intéressant. Et là où je trouve que finalement la comparaison avec Joker, en tout cas le lien, est assez intéressant, parce que justement le Joker, c'est un film où le peuple n'est pas là. Il y a une espèce d'incapacité à représenter le peuple dans ce film, alors que dans Martin Eden, je trouve que la représentation du peuple est articulée de manière très organique à une sensibilité, à un imaginaire qui est celui du cinéaste, qui, on le sait par ailleurs, vient de la baie de Naples, a filmé tous ses films là-bas. Et vraiment, on sent qu'il puise cette histoire dans sa chair, dans ses expériences, etc.
Lucille Como, pour conclure cette séquence sur Martin Eden.
Oui, c'est intéressant de comparer au Joker la forme aussi, c'est-à-dire que là, avec Martin Eden, on n'est pas du tout dans une... C'est pas l'histoire d'une trajectoire, c'est pas tendu vers quelque chose. C'est un film qui, dans mon souvenir, se construit par tableaux successifs avec des coupures esthétiques et rythmiques assez fortes, c'est aussi lié au montage, et ça coupe, ça met à distance le récit d'initiation. On est dans un rapport avec ce personnage qui est extrêmement ambigu, pour le coup, par rapport au Joker, qui est toujours à distance. Moi, j'ai beaucoup pensé à l'éducation sentimentale, parce que c'est ce type de rapport qu'on entretient avec Martin Eden. Un rapport, on peut très bien se moquer de ce personnage qui a des ambitions un peu folles, qui parle avec une sorte de langue complètement affectée au départ, et puis même à la fin, son côté monstrueux, parce qu'il devient vraiment un monstre, hein, comme le Joker, il devient un monstre d'une manière qui peut être ridicule, qui peut toujours être mise à distance. Il n'y a pas de sympathie, d'empathie pour ce personnage-là, et en même temps, on est totalement... à fond. Enfin, je sais pas comment décrire cette ambiguïté-là, mais elle est très forte. C'est pas facile à tenir, surtout sur la longueur.
J'ai allé à la toute fin de cette
séquence. Oui, pour prolonger ce que viennent de dire mes deux camarades avec lesquels je rejoins totalement. Je trouve que le film, l'intelligence du film, c'est de ne pas être une épopée, mais sa réussite, c'est d'en avoir le souffle. Et que, pour prolonger ce que vient de dire Lucille Como, c'est, non seulement ce n'est pas, ça aurait pu être un film d'initiation, un récit d'initiation, mais ce n'en est pas un. Mais c'est même l'inverse, en fait. C'est l'histoire de quelqu'un qui est dans une démarche d'initiation, mais qui s'auto-détruit dès lors qu'il touche à son rêve. Qui se désinitie, en quelque sorte.
Bah, vous me donnez très envie. Je pense que ça va être le cas de quelques auditrices et auditeurs d'aller voir Martin Eden de Pietro Marcello, sorti ce mercredi sur les écrans français.
Je sais pas comment je te voyais, mais je te voyais pas comme quelqu'un de tordu. Quelqu'un d'aussi méchant et d'aussi tordu.
Je suis pas méchant. J'ai un cœur, moi aussi.
Ouais, ben un cœur tordu alors, hein. Sacrément tordu même.
Ce soir, j'ai droit à un coup de cœur, donc je donne à L'Angle Mort, réalisé par le trop rare tandem Patrick Mario Bernard et Pierre Trévidic, 10 ans après leur précédent long métrage, L'Autre, 16 ans après Dancing. C'est un nouveau film qui raconte l'histoire, alors... c'est autrement, mais d'un super-héros très particulier. C'est un homme ordinaire qui mène une vie ordinaire, mais qui a le pouvoir depuis l'enfance de devenir invisible. Et puis petit à petit, avec l'âge, le don se détraque quelque peu, ça le met dans des situations assez délicates. C'est Jean-Christophe Folli qui incarne ce rôle. Il faut préciser que sa réalité d'homme noir vivant simplement, travaillant comme réparateur d'un magasin d'instruments de musique... on fait déjà, et c'est vrai, évidemment un des propos du film, un invisible de notre société, et que ce film le montre sans le souligner, ce qui est quand même assez rare au cinéma, parce que justement, les choses sont trop souvent soulignées. Et cet homme-là, c'était un peu comme le Bartleby de Melville, il préférait toujours ne pas, il travaille, mais il arrive toujours en retard parce qu'il préférerait ne pas. Il a une petite amie, c'est Isabelle Carré qui joue ce personnage, et il souhaiterait pas vraiment s'engager avec elle. Et puis un jour, alors qu'il est invisible, qu'il regarde par la fenêtre, qu'il regarde sa voisine de l'immeuble d'en face, celle-ci le regarde fixement. Comment cela est-il possible? Je ne divulgacherai évidemment pas la réponse. Il faut simplement signaler que la dite voisine est interprétée par Godshifteh Farahani. Le film, finalement, assez proche de Joker, parce que c'est un film où il y a une inquiétude tout le temps, où il pleut tout le temps, c'est sombre, il y a une ville qui est comme ça en déshérence, il y a des gens dont on sent que la colère peut très vite déborder, la violence n'est jamais loin, il y a une tension que rendent les cinéastes qui est très palpable, cette tension qui règne dans les rues. Bon, on se doute que les choses pourraient basculer dans le drame, dans la violence. C'est aussi quand même l'ordinaire de nos vies peut-être qui est montré là. Dans ces conditions, que faire de ce super pouvoir? Là encore, notre héros préférerait ne pas l'avoir. Est-ce que c'est un signe de sagesse? Est-ce que c'est une malédiction que d'avoir un super pouvoir? On peut poser la question autrement. Qu'est-ce qui nous rend aussi invisibles les uns aux autres? On verra d'ailleurs de façon surprenante que l'angle mort, c'est peut-être aussi un conte moral. Il est sorti, ce film, sur nos écrans également depuis mercredi.
France Culture, la dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier film à notre affiche ce soir, c'est Chambre 212 de Christophe Honoré. L'histoire, c'est celle de Maria, qui après 20 ans de mariage, décide de quitter le domicile conjugal pour s'installer dans la chambre 212 de l'hôtel d'en face, à un poste d'observation dont elle n'imagine pas à quel point il est bien trouvé.
Depuis quand, dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra-conjugale ?
C'est la loi des couples qui dure. Personne n'y échappe.
Sauf que moi, je t'ai jamais trompé en 25 ans.
Richard ! Richard ! Richard !
Autant te dire que je désapprouve totalement ton attitude. C'est dégueulasse ce que t'es en train de me faire.
Mais Richard, comment tu peux être aussi jeune ? Je suis en train de perdre ma tête.
À quel moment tu m'as prévenu que t'as comporté aussi salement une fois devenue vieille?
Je suis fou d'inquiétude, là, tu t'en rends compte?
Pourquoi avoir réveillé le passé, Maria?
C'est qui?
Richard vous a jamais parlé de sa professeure de piano? Et si vous décidiez de me rendre seul et vous m'avez pris?
Richard! Richard, ouvre pas, Richard! Désormais,
mon cœur vivra sous l'aile. Alors, petit résumé de votre situation. Vous venez de pousser dans les bras de votre vieux mari son amour de jeunesse, et vous, vous en profitez pour coucher avec ce même mari, mais à l'âge qu'il avait lorsque vous l'avez rencontré.
Parce que je m'autorise une fois un écart.
Maria, nous avons la liste de tous vos écarts.
Comment ça, vous avez la liste?
Alors, qui est qui, déjà? Pierre, le cousin.
Mais qui couche encore avec ses cousins après 14 ans?
Bah, tout le monde, hein.
Dans la chambre 212, ça évoque rien pour toi? Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Et madame est professeure en fac de droit.
Est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment?
On ne nous verra plus ensemble.
Chambre 212 de Christophe Honoré. Lui aussi, je n'ai pas encore vu ce film. Bon, c'est la semaine de la FIAC. Hein. J'ai passé mon temps dans les expositions cette semaine et moins dans les salles obscures. Donc j'attends de savoir si ce week-end, je vais aller, après vous avoir écouté, voir ce film de Christophe Honoré. Premier regard, Jean-Christophe Ferrari.
Je dirais essoufflé et confit dans sa sentimentalité.
Oula, Jean Gester.
C'est compliqué.
Lucille Comeau.
Je dirais que c'est trop compliqué.
Aïe, 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 je ne sais même pas par qui commencer. Qui sera le moins dur? Allez, Jean-Christophe Ferrari, on se lance avec vous sur ce film de Christophe Honoré.
Pour juste situer l'histoire, c'est une histoire qu'on a déjà vue de manière similaire ou analogue, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un couple qui voyage dans son passé pour réparer ce qui est abîmé au présent. Et généralement, ce genre de film, réalisé par un grand cinéaste, Coppola par exemple, c'est exactement l'histoire de Peggy Sue s'est mariée, ou par un bon cinéaste, c'est l'histoire de Eternal Sunshine
Of the Spotless Mind.
Voilà, de Michael Gondry. Ça donne des
films... Et là, il n'y a pas de qualificatif pour le cinéaste Christophe Honoré?
J'y viens. Ça donne des films qui suscitent le vertige, justement le vertige du mélange des temporalités. Or, ce qui me frappe quand je vois ce film, c'est que justement, je ne suis transi, frappé d'aucun vertige, d'aucun mystère. Et ça, je crois que c'est lié au fait que justement, Christophe Honoré est pas du tout un cinéaste qui a le sens du mystère. C'est un cinéaste séducteur, voilà pour le qualificatif. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui veut tout faire passer à la séduction. Mais cette séduction, elle est tellement assénée, elle est tellement forcée que elle séduit pas. Hein. Alors la séduction, deux exemples, le dialogue, c'est un dialogue très écrit, truffé de bons mots, mais c'est un dialogue qui s'envole pas. Un dialogue qui n'est pas aérien. Par exemple, dans les grands cinéastes du dialogue, les films de Guitry, par exemple, les films écrits par Prévert, on a l'impression que les mots deviennent aériens dans la bouche des acteurs. Là, il me semble collé au palais des acteurs et presque mâché par ces acteurs. Donc, très, très alourdi. Et puis, la séduction du théâtre, là, qui est tout à fait assumée chez Honoré, hein, on est dans un décor de théâtre. Sauf que ce qui est intéressant au cinéma, il me semble, c'est quand le décor théâtral se décloisonne et s'ouvre vers un espace cinématographique, ce à quoi, je crois, Honoré ne parvient pas du tout dans ce film.
C'est compliqué, disait Julien Lesters, aux Chambres de 112. En quoi
C'est compliqué au sens où je pense que le film a un projet qui évolue au fur et à mesure de son récit et que plus je pense qu'il réussit relativement ce projet, il l'accomplit. Le problème, c'est que plus le film avance, moins ce projet m'intéresse. Je dois dire.
C'est quoi le projet
On part de prémices qui sont celles de beaucoup de films de Christophe Honoré, en tout cas en termes de cadre, à la fois formel, territorial, culturel, identitaire, etc. On est à Paris, dans le quartier de Montparnasse, on reconnaît un certain nombre d'acteurs qu'on a déjà croisés chez lui, qui jouent d'une certaine manière et que je trouve à la fois tout à fois... plaisante et donc dans cela de mon point de vue la séduction opère et précise des situations que l'on a déjà vues, mais c'est le principe même de ces situations que de se rejouer un certain nombre de fois et je trouve la scène d'ouverture particulièrement réussie en ce qu'elle rejoue une situation notamment précise de vaudeville en déplaçant le point de vue, en inversant plus ou moins les sexes des protagonistes, notamment de l'amant dans le placard, enfin, en l'occurrence ici derrière des rideaux. Et puis, à partir de, disons, d'une mise en place qui traverse un peu un certain nombre de signes extérieurs de films de Christophe Honoré, ce qui n'en soit, de mon point de vue, ni bien ni mal, c'est juste un cadre familier, disons, et que je trouve le film plutôt assez vif et assez réussi jusque-là. En tout cas, c'est séduisant pour moi. Il va faire un pas de côté et aller tout droit vers l'artifice, c'est-à-dire un artifice à la fois de film maquette, un artifice de film boule à neige et puis de film cerveau, mais sans lâcher la dimension du vaudeville, du théâtre, comme vous disiez. Et je trouve que dans le film, pour le coup, cette dimension d'artifice là est très accomplie. Je le trouve à la fois incarné, assez vive, assez articulé, dans la manière que là de se déplier, de soulever, de tirer des fils des personnages et d'en extraire des couches un peu secrètes. Et en même temps, pour le coup, la part incarnée justement des choses, la part de chair qui serait celle du vaudeville, qui serait celle de la dramaturgie pour le coup, je trouve que le film s'en désintéresse totalement pour jouer à la maison de poupée, pour jouer à la maquette, ce qu'il fait, je trouve, vraiment, encore une fois, assez brillamment, mais que plus rien ne semble ni ni vivre vraiment là-dedans, ni menacer cette vie où les liens entre les personnages se couplent. Au fond, il y a très peu d'enjeux, en fait, qui se jouent. Et il y a quelque chose d'assez curieux dans le film, ou plutôt à la fin du film, au générique de fin, Christophe Honoré fait quelque chose que j'ai pas eu le souvenir d'avoir vu aussi nettement. C'est à la fin d'un générique de cinéma, il y a toujours des remerciements, ceux du réalisateur, du producteur. Le réalisateur ici, Christophe Honoré, fait la liste des cinéastes qu'il remercie, et qui ne sont pas des cinéastes amis, qui ne sont pas sa famille ou des gens avec qui il apprécie passer du temps, mais c'est littéralement un mood board, un carnet d'inspiration qu'on identifie comme celui du film qui est livré. Alors j'ai pas pris la note de tous les noms, mais on y retrouve Bertrand Blier, Bergman, Woody Allen. Je crois que un ou deux noms m'échappent. Et ce qui est un peu creux, en fait, je ne sais pas si c'est tout à fait rendre service au film, parce que ça jette, je pense que le film de Bertrand Blier, qui est pas forcément la face du film, l'horizon du film qui moi m'intéresse le plus et donner le peu de goût que j'ai pour le cinéma de Blier, je pense que c'est assez réussi, mais il manque au film pour le coup la profondeur, la noirceur, la méchanceté aussi, le vertige justement que je ne trouve pas chez Gondry par ailleurs, mais qu'on pourrait trouver chez un Bergman, la qualité d'un au fond, la possibilité de voir ces gens qu'on voit à l'écran souffrir véritablement et mettre leur vie en danger, une vie qui serait percevrait presque comme réelle, pour pouvoir mieux goûter, les voir la sauver éventuellement.
Bon, je suis pas sûr de m'être fait un avis hein, pour l'instant. Lucille Comeau, vous m'aidez pour Chambre 212 ?
Bon, je suis pas très convaincue par le film, mais ce serait plutôt l'inverse de Julien Gester. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas aimé le film, il m'a beaucoup agacé. J'y reviendrai par son formalisme et justement le côté ludique qu'il revendique, qui à mon avis ne fonctionne pas très bien. En revanche, il travaille un peu à rebours, enfin après, comme un effet retard sur moi. Christophe Honoré travaille beaucoup sur Proust en ce moment et j'y vois quelque chose d'assez juste sur ce que c'est que voilà, le temps retrouvé. Finalement, comment en juxtaposant des temporalités de manière presque littéraire, puisque bon là il choisit le théâtre, mais ça pourrait être aussi bien romanesque, on arrive à trouver quelque chose de la figuration assez littérale d'une nostalgie en ayant son mari jeune et son mari à l'âge qu'il a en même temps, de manière concomitante, il y a quelque chose de la colure de la colure, ça n'existe pas comme mot mais proustienne voilà, qui existe là qui travaille quelque chose en moi, une grammaire amoureuse assez sombre, mm-hmm. mais je trouve qu'il fonctionne. En revanche ce qu'il fait du vaudeville, Je trouve ça extrêmement compliqué pour rien. C'est-à-dire que l'idée de cette concomitance du mari amant et du mari mari, je trouve ça très intéressant. Le problème, c'est que les boîtes, elles sont beaucoup trop gigognes. Et ça finit par s'ouvrir dans des possibilités ludiques absolument incroyables, puisque Chiara Mastroianni, donc le personnage principal, finit par se retrouver à la fois face à des fantômes, il y a sa mère qui intervient, puis la mère de sa mère, donc sa grand-mère, dans des chambres qui ne cessent de s'ouvrir derrière la chambre de son hôtel. Et des allégories même, on entendait dans la bande-annonce, il y a aussi sa volonté qui apparaît sous la forme d'une sorte d'Aznavour un peu raté, un Aznavour de cabaret. Et ça, ça compromet complètement le postulat de départ, puisque si tout peut apparaître dans des statuts aussi différents que fantômes, allégories, amants, etc., on comprend plus en fait le fonctionnement vaudevillesque. C'est-à-dire que c'est un film qui travaille une matière théâtrale connue et qui en même temps ne cesse de la détruire en compromettant complètement le sens du ludique. Voilà. Par ailleurs, moi, la manière d'écrire les dialogues, je suis assez comme Jean-Christophe. Je n'en peux plus d'entendre ça. Je pense qu'on peut plus écrire comme ça. On a trop entendu ça. C'est pas possible.
Fini.
Bon, voilà, c'est fini. Jean-Christophe.
Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Julien Gester sur le générique et les cinéastes remerciés. Ça me paraît pertinent. Effectivement.
J'oublie René.
Oui, René, effectivement.
Mais je prends pas beaucoup de risques en même temps, ça tire un peu dans tous les sens.
C'est
une
balle dans le pied pour le coup, oui, ça tire dans tous les sens, ici, à vous écouter. Pardon,
Jean-Christophe. Non, mais je crois effectivement que ça dessert le film et que ça met en évidence à quel point Christophe Honoré est un cinéaste qui tourne en rond dans une espèce de musée imaginaire du cinéma. Pour moi, le problème de Honoré, c'est que c'est intervenu, c'est-à-dire que le cinéma qu'il aurait voulu faire, il a déjà été fait, et que alors que faire quand on est dans cette position-là ?
Pas toujours, quand il fait au vide, c'est quand même pas.
Effectivement,
il y a
deux trois exceptions. Il y a deux trois exceptions, je vous l'accorde, mais c'est quand même un cinéma très aimanté par la nouvelle vague.
Bon, il n'est pas le seul.
Demi et d'autres. Et là, il y a des allusions constantes. Alors, Aznavour, pourquoi il faut que la volonté ressemble à Aznavour? On sent la référence à Truffaut. Il y a un moment où il y a Carole Bouquet qui dit « Qu'est-ce que j'étais belle avant, quand même ». Enfin, moi, ça me sort
complètement. Ça, c'est Bertrand Blier. Trop belle pour toi.
Oui, mais ça me sort complètement du film, cette espèce.
Vous me racontez trop de choses, là.
Non,
Lucille Comeau.
Non, mais c'est extrêmement compliqué. Donc là, on a, à mon avis, rien compris du tout à ce qu'on vient de dire.
Enfin, ouais.
Moi-même, j'ai pas compris ce que j'ai dit.
Et Julien Gester va achever de nous confusionner.
Non, pas forcément, parce que non, mais c'est pour répondre à ce que vient de dire Jean-Christophe Ferrari. Je suis
en 20 secondes.
Assez d'accord, oui, sur ce que vous pointez dans le film, qui me semble des choses, en effet, un peu, qui me convainquent pas forcément, mais pas du tout sur ce que vous dites plus généralement sur le cinéma de Christophe Honoré, notamment ses films post-Nouvelle Vague, parce que je pense pas du tout que ce soit un maniérisme, mais précisément, enfin, j'ai employé un gros mot, une sorte de post-maniériste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se filme comme tel, et que la dimension, c'est pas quelqu'un qui pastiche la nouvelle vague parce qu'il aimerait faire des films doudous, il aimerait faire les films qu'il aurait aimé pouvoir faire lui-même dans les années 60. C'est précisément la grande question de son cinéma que de filmer qu'est-ce, quel geste est encore possible après.
Bon, c'est pas moi qui vous ai coupé la chic, hein, mon cher Julien Gester, mais je rappelle que Chambre 212 est sortie sur les écrans mercredi dernier et que pour en savoir plus sur la vie du cinéaste, on peut la vie L'AVIS, on peut les réécouter. Il était l'invité de la grande table le 7 octobre. Vous pourrez trouver ça sur le site de France Culture. Mais en effet, c'est l'heure du jeu de la dispute et David Dana nous a rejoint. Pour nous rappeler la question du jeudi, donner sa réponse, David.
Sur quel pays caribéen a été tournée une partie du film Zombie Child? Et la réponse est Haïti.
Ce soir, des invitations à gagner pour le cycle Edgar Allan Poe. C'est à la Cinémathèque de Toulouse jusqu'au 5 novembre. La question:
qui est le premier traducteur français d'Edgar Allan Poe?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinault, David Dana, prise de son ce soir, Marie-Claire Oumabadi, réalisation Alexandre Fougeron, lundi 19h, dispute théâtre avec Marie-Josée Sirage, Caroline Châtelet, Philippe Chevillier. Nous parlerons de Stallone, d'après Emmanuel Bernheim, mise en scène Fabien Gorgeard, Palace, Jean-Michel Ribes, Electre, des bas-fonds, texte et mise en scène, Simon Abkarian.